بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères en islam, alhamdulillah, nous reprenons ce soir les programmes concernant les derniers grands signes avant la destruction de ce dunya. En réfléchissant à la classification des grands signes de Qiyamah, ça nous ramène un petit peu vers le début des programmes sur Shart al-Sa'a. On a vu qu'il y avait des savants qui ont classifié les petits signes en deux catégories. Petit A, les petits signes qui se produisent une seule fois et qui ne se produisent plus par la suite. Petit B, les petits signes qui vont démarrer à un moment donné, après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui vont continuer, qui vont perpétuer, qui vont parfois même s'amplifier jusqu'à la fin des temps. Parmi ces exemples, les péchés, la perversion, la consommation d'intérêts sous d'autres noms masqués, la consommation de l'alcool sous des noms masqués, et ainsi de suite. Troisième catégorie, ce sont les grands signes de Qiyam, Ashrat al-Sa'a al-Kubra, qui commencent à partir de la venue de Al-Mahdi, ensuite Ad-Dajjal, Isa al-Salam, Ya'juj wa Ma'juj, jusqu'à les autres signes. On pourrait ajouter une classification, ce qui n'est pas interdit, c'est juste une question d'organisation. On pourrait rajouter une classification, c'est exactement les signes qu'on est en train de voir en ce moment, les grands signes après le départ de Jésus, après le départ de Isa al-Salam. Lorsque Isa alayhi salam va mettre fin au règne, à la tyrannie de Dajjal, et qu'ensuite il sera l'acteur principal pour la destruction de Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, il va rester pas mal d'années sur ce dunya. Ce seront les années, on va dire, les plus bénies de l'histoire de l'humanité. Jamais il y aura autant de baraka, de bénédiction dans cette umma qu'à l'époque de Isa alayhi salam. Et après le décès, cette fois-ci on parle de décès de Isa alayhi salam, il y aura un déclin. Et ce déclin a un commencement. Et c'est là qu'on a une petite divergence entre les savants concernant un signe, on va dire concernant deux signes, concernant le soleil qui se lève à l'ouest et concernant Ad-Daba, la bête qui va sortir à la fin des temps. En analysant la classification des différents savants, certains mettent le soleil qui se lève à l'ouest au tout début, immédiatement après le décès de Isa alayhi salam. D'autres savants considèrent que ça, c'est un des derniers signes avant la destruction de ce dunya. On était parti sur cette seconde opinion avant, quand on avait fait ce programme, que le soleil qui se lève à l'ouest, c'est parmi les derniers signes avant la destruction de ce dunya. Mais après analyse un peu plus approfondie des hadiths, des textes qui décrivent la situation des gens après ce signe et l'enchaînement des autres grands signes après cela, entre autres la destruction de la Kaaba, le Coran qui sera repris par Allah Rabbul Izza, je suis d'avis que ce qu'on fait, c'est le premier ra'y, le premier opinion qui est le plus correct, que juste après le départ, c'est quand Isa est remonté au ciel. Après le décès de Isa alayhi salam, on va dire que le premier grand signe qui va intervenir, c'est le soleil qui se lève à l'ouest. Nous, on avait démarré de l'autre façon, avec l'opinion des autres savants, mais comme j'ai dit, après avoir étudié avec un peu plus de détails les hadiths et les différentes interprétations, on va plutôt vers cet avis que le soleil se lève à l'ouest immédiatement après le départ de décès de Isa alayhi salam, parce qu'à partir de ce moment, il y a le déclin définitif. Et à partir de ce moment, la Tawbah n'est plus acceptée. À partir de ce moment, il y a encore des croyants, il y a des gens qui ont toujours eu l'habitude de faire de bonnes actions, ils vont continuer à faire de bonnes actions. Mais il y a des gens qui, lorsqu'ils verront le soleil se lever à l'ouest, vont comprendre que c'est là un des signes annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Amanu jami'a ». Ils vont tous avoir iman, ils vont tous lire la shahada, ils vont tous reconnaître l'unicité d'Allah Azza wa Jal, la véracité de l'islam. Mais on verra dans un instant, à partir de ce signe, le tawbah n'est plus accepté. À partir de ce signe, une personne qui était kafir ne peut plus devenir musulmane. À partir de ce signe, un pécheur ne peut plus demander tawbah, ne peut plus revenir vers le droit chemin. Ceux qui avaient des acquis spirituels, en termes de tawhid, bien sûr, en termes de a'mal saliha, en termes de bonnes actions, ben eux, ils vont continuer à faire ces bonnes œuvres et leurs actions seront acceptées. Ceux qui ne faisaient pas de bonnes actions, qui étaient dans le péché, ceux qui avaient la foi, mais qui étaient dans le péché, dans l'insouciance du matin jusqu'au soir, à partir de ce signe, le tawbah n'est plus accepté par Allah. Même si la personne redouble de piété, il fait beaucoup de bonnes œuvres, le tawbah n'est plus accepté parce que le soleil est apparu à l'ouest, et ça se produit une seule fois dans l'histoire de la création d'Allah Azza wa Jal. Et c'est là un signe clair et évident, annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, décrit à travers un verset, un tafsir du Coran qu'on verra dans un instant. Et lorsque les gens vont voir le soleil à l'ouest, ils vont reconnaître ce signe, mais ce sera exactement comme qui est-ce qui avait vu un signe évident avant de mourir et qui a essayé de proclamer l'unicité d'Allah, mais dont le tawhid et le tawbah n'a pas été accepté. Pardon ? Pharaon. Pharaon, lorsqu'il a vu la mer s'ouvrir, il savait que c'était la vérité, mais à cause de sa fierté, de son orgueil, il n'a pas voulu accepter, parce qu'il avait un rang, il avait un manzila, il avait un pouvoir, il devait garder ça, il devait garder la tête haute avec les Banu Isra, face aux Israélites, et avec les Coptes, avec toute la famille de Pharaon, toute son armée qui était avec lui. Mais lorsqu'il a vu que il allait vraiment mourir et que la mer s'est refermée sur lui, parce que jusqu'à la dernière minute, il a essayé de trouver des interprétations pour persister dans le kufr, dans l'erreur, et amener les gens avec lui dans l'erreur. Lorsque la mer s'est ouverte pour Moussa alayhi salam, au lieu de s'exclamer devant ce miracle et d'accepter ce qu'il venait de voir comme étant l'ordre d'Allah, la manifestation du pouvoir d'Allah Azza wa Jal et la preuve de la véracité du prophète Moussa alayhi salam, il a essayé d'interpréter ce signe d'une autre façon en disant aux Coptes, voyez comment la mer s'ouvre pour me laisser le passage vers mon ennemi. Donc même les signes d'Allah Azza wa Jal, il le savait, il avait bien compris depuis le début, mais c'était la fierté et l'orgueil qui l'empêchaient de voir la vérité. Et donc, au moment où la mer se referme sur lui et qu'il meurt, il proclame l'unicité d'Allah et son retour vers Allah, mais à ce moment, son tawbah n'est plus accepté. Les savants disent que c'est la même situation. C'est pour ça également que le repentir d'une personne, d'un croyant, est accepté. Malam yugharghir. Al-gharghara, c'est quoi? L'agonie. Sakaratul maut. Quand quelqu'un est dans l'agonie, c'est une situation que tout le monde va connaître un jour. L'agonie peut durer 2 ans et demi. Allahumma ahfazna. Qu'Allah nous protège. L'agonie peut durer 2 ans et demi, 3 ans sur un lit d'hôpital. Vraiment, demander protection à Allah contre sou al-khatima ou contre ses difficultés avant de mourir, contre cette humiliation, al-haram, hein, le fait de devenir très vieux et de devenir dépendant des gens. Donc, l'agonie peut durer 2 ans ou 3 ans. Cancer ou un problème envahissant, ça n'a rien à faire. Ou alors l'agonie peut durer une fraction de seconde, mais cette fraction de seconde, pour l'homme, vous voyez tout le décalage, la subtilité qu'il y a de le temps. La subtilité qu'il y a de le temps, nous voyons une personne qui fait un arrêt cardiaque ou une personne qui meurt subitement, qu'Allah nous protège également, qui meurt subitement lors d'une collision, dans un choc avec un accident de voiture ou autre chose, et on a l'impression que la personne est morte subitement, une seconde. Mais cette seconde-là, pour nous, êtres humains, nous paraît très rapide, mais pour la personne qui voit son ruh sortir, c'est un moment extrêmement, extrêmement douloureux où, même si c'est comme si que le temps s'arrêtait pour lui. Pour nous, le temps s'enchaîne, mais pour le défunt, qui a déjà mis un pied dans le monde de l'invisible, pour lui, le temps s'arrête. Le temps s'arrête pour que Malik al-Maut vienne accompagner des malaïka qui lui annoncent soit la bonne nouvelle ou qui vont l'effrayer à cause de ses péchés ou de son kufr. Et l'âme qui, si c'est quelqu'un qui était dans le mauvais chemin, l'âme qui refusera de sortir du corps, l'âme qui va essayer de trouver refuge ailleurs, et les anges vont frapper l'âme de Sallallahu pour qu'il sorte. Bref, pas mal de descriptions du Nazir Rouh. Lorsque l'âme quitte le corps, il quitte le corps de la même façon, quelle que soit la façon de mourir. Il y a soit le croyant, soit le mécréant. Après qu'on meurt de mort naturelle, sur un lit d'hôpital, sur le bitume, ou alors dans un avion, dans un crash noyé, le Nazir Rouh, cette étape de la séparation de l'âme du corps, c'est la mort. Cette étape, tout le monde va le vivre de la même façon. Donc, la personne qui est dans l'agonie, son tawbah n'est plus accepté. Pour la même raison. Pour la même raison que parce que quand quelqu'un est de le rarara dans l'agonie, la personne n'a plus d'espoir en l'avenir. Comme Pharaon qui est en train de mourir, il n'a plus d'espoir. Il sait que tout est fini, que tout est perdu. Lorsqu'une personne voit la mort, le tawbah n'est plus accepté. Également, quelqu'un qui est dans l'agonie ne peut pas faire un testament, c'est trop tard. C'est trop tard parce que on considère qu'il ne fait presque plus partie du monde des vivants. D'où l'importance, pourquoi est-ce qu'on parle de cette limite où le Torah n'est plus accepté, pour qu'on réalise que tant qu'il y a de l'espoir de vivre, tant qu'on est dans une situation acceptable et stable, le Tawba est accepté par Allah Rabbul Izzah, mais à ce moment-là, il n'y a plus de Tawba. Donc, pourquoi est-ce qu'on arrive à cette conclusion que le soleil qui se lève à l'ouest, c'est un des premiers grands signes après le décès de Isa al-Islam, parce que les événements qui vont suivre, on pourrait dire que ce qui viendrait juste après, c'est le vent qui va reprendre le ruh, l'âme des croyances. On avait vu ensemble cette brise douce qui passe sous les aisselles et qui reprend l'âme de toute personne. Parce que si on reconstitue le puzzle, on a vu qu'après que les croyants quittent ce dunya, là il y aura destruction de la Kaaba, là il y aura le Coran qui sera repris. C'est-à-dire que cette population, la vie humaine, ne vaudra même plus la peine d'être vécue. La rahma d'Allah ne descend plus sur des êtres humains, sur un groupe de gens où il n'y a même plus une personne qui dise Allah, Allah, qui ont encore la foi dans leur cœur. Donc, il faudrait juste qu'on fait un copier-coller, on reprend ce signe, on le met au début, et puis le reste, ça suit son cours, Inch'Allah, normalement. Alors, ce qu'on va voir ce soir, on ne va pas être long, vu les conditions météorologiques. Je pense que tout le monde est mouillé aussi, donc ce n'est pas très agréable. On va voir un seul signe. Du coup, on a plus parlé du soleil, mais on va garder ça pour la prochaine fois. On va parler de ces fameux, de ces trois séismes qui auront lieu, Inch'Allah, à la fin des temps. Et justement, je pense que le moment est opportun pour parler de ce genre de signes. Vous savez, lorsque on vit des situations météorologiques extrêmes, hein, comme c'est le cas aujourd'hui, hier et avant-hier encore la pluie, ça va, mais entre le Maghreb, avec, je sais pas, ici aussi certainement il y avait l'orage, les éclairs, le tonnerre. Honnêtement, à un moment donné, on ressent une petite angoisse intérieurement. D'où l'importance de lire le dua Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati, pour qu'on se rappelle que ça c'est l'ordre d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui a le contrôle sur chaque chose. Mais dans ces moments également, on ressent profondément de l'humilité, tawadhu. On se rend compte qu'on est, Allahu Akbar, on est strictement rien. Lorsque vous voyez le ciel s'illuminer avec la foudre, et quelques secondes après, vous pouvez compter les secondes avant d'entendre le tonnerre, et c'est des choses qui sont quand même effrayantes. On se demande, mais subhanallah, si Allah Rabbul Izzah ne nous protège pas, si Allah Azza wa Jal décide de nous détruire immédiatement par une pluie torrentielle, par une tornade, par une tempête, par la foudre qui tombe sur nous, il arrête les alik, mais qui nous protège? Qui est capable d'assurer la protection contre une foudre qui tombe ou alors une pluie envahissante, quels que soient les signes? Et ça, c'est une première piste de réflexion. Deuxième piste de réflexion, ça nous rappelle qu'à la fin des temps, le dunya sera complètement détruit. Soleil, ciel, la terre, les mers, tout ce qui existe seront détruits par Allah Rabbul Izzah en une fraction de seconde. On a vu ça dans Tafsir al-Nazi'at au Latanié. On a dit que quand on médite sur la grandeur d'Allah et la puissance, la qudra, la puissance de notre Seigneur qui, en par l'ordre kun fayakun, Allah Rabbul Izzah ordonne et tout prend forme. Allah est capable de créer tout ce que nous voyons, tout ce qu'il y a de plus beau, de plus grand et d'infiniment petit, uniquement par le verbe kun. Mais Allah Azza wa Jal est tout autant capable de tout détruire par l'ordre divin. Celui qui est capable de tout construire, on admire la puissance de la création, mais pour la destruction aussi, c'est un grand signe de son qudra, un grand signe de sa puissance. Il suffit qu'Allah Azza wa Jal ordonne à l'ange. Quel ange encore? Allons. Quel ange? L'ange Israfil alayhi salam, de souffler fil sour, de souffler dans cette corne, et que l'intégralité de la création, tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé, sera immédiatement détruit en quelques secondes. Je dis quelques secondes, ça peut être en une fraction de seconde. Ça c'est le qudrat d'Allah Azza wa Jal. Et si on analyse encore un peu plus, hein, l'intermédiaire, le qudrat, la puissance d'Allah et l'intermédiaire, on se rend compte qu'Allah Azza wa Jal ensuite ordonne à l'ange Israfil de souffler une seconde fois fis sour dans la corne, et là, tout ce qu'Allah Rabbul Izzah crée comme ins, djinn, hayawan, être humain, djinn, être humain et même les animaux seront tous ressuscités en un seul endroit, depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps. Tout ça, ça nous, subhanallah, ça doit faire bouger la foi, ça doit nous faire réaliser la puissance, le qudra du Khaliq, la puissance de notre Seigneur. Donc quand on voit les éléments comme là, ça reprend, qui sont entre guillemets déchaînés, on se dit que ben, à la fin des temps, lorsqu'il y aura des catastrophes naturelles voulues par Allah Azza wa Jal, prévues par notre Seigneur, quelle sera la situation de l'humanité et qu'Allah nous protège de ce genre de vision. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, ce seront les trois grands séismes. Mais c'est plus que des séismes. Les khusufat, très souvent on les traduit par séisme dans le livre de Cheikh Al-Arifi, rahimahullah. Il traduit également khusufat par séisme, mais affaissement géologique, engloutissement. Il y a même un terme de ligne, c'est un terme que je ne connais pas. C'est la terre qui s'affaisse. Ce n'est pas uniquement un tremblement de terre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça remonte à pas mal de temps. Lorsqu'on avait vu les petits signes de Qiyama, on avait vu qu'à la fin des temps, il y aura de plus en plus de zalazil. Et quand on parle de zalazil, ce sont les tremblements de terre connus, les séismes. Les tremblements de terre vont être de plus en plus fréquents, de plus en plus violents et donc de plus en plus dévastateurs. Hada. Mais ce qui va se passer à la fin des temps, ce ne seront pas de simples tremblements de terre, ce seront trois séismes accompagnés d'affaissements, d'engloutissements, comme on peut l'appeler, mais vraiment délimités. En nombre, il y aura trois et pas quatre. Et les zones également seront délimitées. Ils auront lieu à trois endroits particuliers. C'est ce qu'on va essayer de voir, Inch'Allah, immédiatement. Hada. Alors, ça nous ramène vers le hadith de Hudhayfa ibn Usayd al-Ghifari radiallahu anhu, dans lequel il dit que لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات, la fin du monde n'aura pas lieu tant que vous ne verrez 10 signes. Et parmi les signes qu'il a cités, on reprend toujours ce genre de hadith basique, on rappelle tout ce qui doit avoir lieu avant le Qiyama. Parce que très souvent les gens disent Qiyamat les proches, Mamay. Ouais, ok, Qiyamat les proches, mais c'est pas pour demain. C'est pas pour après-demain. Parce qu'il doit y avoir tous ces grands signes qui vont avoir lieu avant le Qiyama. Très souvent on se réfugie dans le Qiyama. Le Qiyama, Imam Mehdi, ils ont le dos très large. Quand on se sent impuissant, quand on voit que la situation est vraiment catastrophique, on n'arrive plus à faire face au péché ou à la désinvolture de la jeunesse ou aux problèmes de fitna, on se dit que de toute façon, laisse tomber, on attend la venue d'Al-Mahdi, celui qui va rétablir la vérité, celui qui va ramener la paix dans le dunya. Aucunement. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais demandé à sa umma d'attendre la venue d'Al-Mahdi, mais bien au contraire, le prophète alayhi salatu wassalam à inciter le croyant à travailler, à œuvrer pour le changement, pour améliorer la situation. Quelles que soient les situations, ça peut être une situation de conflit, faire tout ce qu'on peut pour mettre fin aux guerres. Une situation où on est opprimé, faire de notre mieux pour que l'oppression cesse. Une situation où on est envahi par les fitna, envahi par les péchés, faire de notre mieux pour nous éloigner des sources de fitna, des sources de péché. Mais en aucun cas, on ne peut sombrer dans le fatalisme et dire que maintenant, on vit une époque où il y a telle chose. Maintenant, il y a trop d'eux. Il y a tellement d'eux, il n'y a quasiment plus d'eux. Donc, c'est normal qu'on sombre et qu'on coule peu à peu dans le péché. Abadan, aucunement. Aucunement, et on pourrait même prendre le problème, la problématique dans l'autre sens, à l'envers. On pourrait même dire que, subhanallah, ça c'est sharaf, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur, c'est une grande chance, une opportunité que de vivre à une époque où on est entouré de péchés. Parce que dans des situations comme la nôtre, en 2015, avec les fitnas, les péchés, les difficultés qu'il y a dans la pratique de la religion, mais celui qui pratique réellement sa religion, mashallah, c'est quelqu'un qui sera encore plus aimé par Allah. Parce qu'une pratique dans un contexte propice, facile, alhamdoulilah, le devoir est accompli, mais une pratique dans un contexte très compliqué, il y a beaucoup plus de valeur. Et l'exemple qu'on prend chaque fois, hein, on ne s'obsède pas, on n'est pas obsédé à travers ce péché-là, mais honnêtement, on pourrait dire que c'est le péché le plus envahissant, c'est le contrôle du regard. Même des gens pieux, hein, des gens très bien, hein, qui étaient venus à la réunion pendant quelques jours, des gens venus de Makkah al-Mukarrama, ils m'ont fait la même remarque qu'une personne qui arrive à contrôler son regard dans l'endroit où on est, c'est un waliyullah, c'est un ami d'Allah, c'est un proche d'Allah, il fait partie de salihin, c'est suffisant. Amplement suffisant pour être considéré comme un homme pieux que le fait de pouvoir contrôler son regard lorsqu'on habite dans un tel contexte. Confirme ? Confirme ? Salih, vrai, pas vrai ? On est tous d'accord là-dessus, subhanallah. Et donc, la pratique d'une telle circonstance, c'est source de récompense et on sera encore plus aimé par Allah Azza wa Jal. Samia, tu affirmes ? Qu'est-ce qui est puis à Paris ou bien ici ? Qu'est-ce qui est puis à Paris ou bien ici ? Bon, alors Paris en été, c'est comme ici. D'accord. Je ne connais pas, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse pour, genre, je ne connais pas s'il y a des fitnas. Bien, on continue. Donc, le prophète Hassan dit que, donc, Wasala, ça te ressouffle, et trois engloutissements, trois séismes gigantesques, Khasfun bil Mashrik, un, wal bil Maghrib, wa bi Jazirat al Arab. On va aller un peu plus vite. Il y a un engloutissement, un affaissement de terrain, ou alors un séisme gigantesque, un à l'Occident, un en Orient, et l'autre dans la péninsule arabe, Jazirat al Arab. Hadith rapporté par Muslim, Ahmad, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Après, il y a d'autres versions. Comme d'habitude, hein, quand il y a un hadith, il y a toutes les chaînes de narration, mais on ne va pas tous les citer parce que le but, c'est de trouver une source authentique et on se fixe là-dessus. Il y a une autre version d'Abu Daoud également, où là, même dans cette deuxième version, on précise bien ce qui est précis. Quand on parle de l'Occident, de l'Orient, c'est un peu vague. On ne peut pas vraiment dire c'est où. Mais lorsqu'on parle de Jazirat al-Arab, quand on analyse tous les hadiths qui parlent de ce signe, le terme Jazirat al-Arab revient à chaque fois avec la même précision. Et Jazirat al-Arab, c'est la péninsule arabe. C'est l'Arabie, la zone où il y a l'Arabie et les pays qui sont autour. Donc, on sait qu'à la fin des temps, il y aura un cataclysme, une catastrophe naturelle qui va avoir lieu à cet endroit. Alors, quand on regarde la définition de Al-Khusufat, Khasf, donc le singulier de Cheikh Mohamed Al-Alifi, il dit que la terre va se fendre. Déjà, quand il y a un séisme, c'est ça, non ? Allah nous protège, Inch'Allah n'aura jamais à voir ça. Mais la terre commence par se fendre, la terre va s'ouvrir. Et je ne sais pas ce que ça se passe. Est-ce que tous les tremblements de terre se passent de la même façon ? Ou alors c'est juste la terre qui tremble parfois ? Est-ce que la terre s'ouvre à chaque fois, Allahu A'lam ? Et là vraiment on voit la différence entre Zalzala et Khasf. Et le sol de surface va s'effondrer en profondeur. C'est-à-dire qu'il y aura une crevasse. Le sol la surface terrestre va s'écrouler. C'est comme si qu'au-dessous de la terre, il y aura un fossé géant, gigantesque. Il dit que par le passé et à notre époque, de tels phénomènes ont déjà pu être observés, mais à une échelle relativement limitée quant à la superficie et à la violence du choc. Alors que les effondrements, les khusufat qui vont avoir lieu à la fin des temps, c'est quelque chose que l'humanité n'aura jamais encore vu, la race humaine n'aura jamais encore vu. Et là, il a pris une photo d'un... Il appelle ça une doline, un affaissement géologique. Bon, l'image est assez petite, mais c'est comme un dôme à l'envers, en fait. C'est comme un qubba, c'est comme un dôme à l'envers. C'est comme si que, subhanallah, ça se creuse et ça communique avec le noyau terrestre. Il n'y a plus rien dessous. Il dit que ça peut se produire dans certains endroits, mais ça reste quand même limité. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'écrire ce qui va se passer à l'Occident, en Orient, parce qu'on n'a aucune indication, pas de détails. Par contre, on a un détail très précis concernant cet événement qui va avoir lieu dans la péninsule arabe. Et on va dire que, bon, cher Alifi, on va dire c'est un des seuls savants qui a fait le parallèle avec un autre signe qui aura lieu à la fin des temps. C'est un ijtihad, c'est une réflexion qu'il a menée. Il dit que, subhanallah, voyez que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait parlé d'un tremblement de terre qui va engloutir une armée à la fin des temps, il avait parlé d'un khasf, de la terre qui va se fendre pour avaler une armée et les caravanes, les civils, toutes les personnes qui seront autour de ces gens, ils vont tous être engloutis par la terre. Et Al-Alifi, hafidahullah, il fait le parallèle. Selon lui, ce signe hein, cette catastrophe qui aura lieu dans la péninsule arabe, ça peut être ce qui se passera à la fin des temps. Mais là, ce qui nous pose un petit peu problème, c'est que là, après, il faudra remonter la pendule. Parce que ce signe-là aura lieu quand? Juste avant la venue d'Al-Mahdi. Avant la venue de Mahdi, alors, on vous cite le hadith, Umm Salama radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il existera une profonde divergence à la mort d'un calife. Ça vous dit quelque chose, ça? Un dirigeant musulman qui va mourir à la fin des temps, et après sa mort, il y aura un flottement dans ce pays. Il y aura un flottement, qui est-ce qui va reprendre le pouvoir? Un Quraishite de Médine se rendra à Mecca, c'est alors que les Mécois iront à sa rencontre. On parle de qui? De Al-Mahdi, quelqu'un de la tribu de Quraysh qui est à Al-Madine, Al-Munawwara, qui va aller à Mecca. Et lorsqu'il va aller à Mecca, les gens vont reconnaître instinctivement que c'est lui le Al-Mahdi, c'est lui le futur Amir Al-Mu'minin. Pourquoi est-ce qu'il y a ce flottement? Parce qu'après le décès de ce dirigeant, plus personne n'a le droit de prendre le pouvoir si ce n'est Al-Mahdi. C'est pour ça qu'il y a un flottement. Autrement, dans n'importe quelle dynastie, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle monarchie, ou alors quel que soit le système politique, quand il y a un décès, mais avant le décès, on sait déjà qui va reprendre le pouvoir. Surtout dans les monarchies, on sait qui est-ce qui reprend le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il y a un flottement? C'est parce qu'Allah Azza wa Jalla a décidé qu'au décès de cet empereur-là, c'est Al-Mahdi qui va prendre le wilaya, qui va devenir le Amir al-Mu'mini. Donc, Al-Mahdi qui quitte Al-Madina, qui va aller à Makkah al-Mukarrama, les Mécois iront à sa rencontre et le feront sortir contre son gré. Vous vous rappelez de ces textes qu'on a vus il y a au moins 2 ou 3 ans? Ce n'est pas quelqu'un qui va déclarer « Je suis le Mahdi ». D'accord? Ce n'est pas le genre de personne qui va imprimer des t-shirts « Je suis Mahdi » et tout ça. Non, aucunement. Non, il ne va pas dire « Je suis le Mahdi ». Au contraire, les gens pieux de la Mecque vont reconnaître en lui les signes de le Mahdi et ils vont le forcer à venir sur le Mataf près du Maqam Ibrahim pour faire le bay'a entre Rukn Yamani et Maqam Ibrahim. Ensuite, on enverra contre lui une armée de soldats venus du Sham. Je ne m'avance pas. Je ne fais pas partie de ces gens qui voient l'actualité, qui mettent tout de suite des étiquettes. Ça, c'est tel signe. Parce qu'on ne se prononce pas, on ne peut pas savoir. Lorsqu'un signe va se produire, ce sera évident. Mais je crains que la situation au Sham ne s'améliore pas jusqu'à la fin des temps. Wallahu a'lam. Parce que les grands, il y a des fitnas qui vont venir du Sham, de cette région. Nous voyons la situation en Syrie en ce moment, c'est catastrophique. Jamais cette région du monde n'a connu une période d'instabilité aussi longue. Ça fait combien de temps que les conflits durent là-bas? Ça fait au moins 4 ans là, non? Au moins 4 ans. Et vu la situation, et vu l'impuissance, on ne parle pas de politique, vu l'impuissance ou l'absence de volonté, ou alors les accords, Dieu seul le sait, on vit dans un monde étrange et bizarre, que les autres dirigeants ils ont, ou les appréhensions qu'ils ont, et il y a d'autres choses encore, d'accord, enfin, c'est beaucoup plus complexe et plus pervers que ça, qui fait que personne n'ose, on va dire, imposer un changement à la tête du Sham pour mettre fin à ce génocide. En fait, vous savez, les seuls génocides qui sont tolérés, c'est lorsqu'il s'agit de musulmans. Quand il s'agit d'autres populations, immédiatement il y aura levé des boucliers, il y aura des casques de toutes les couleurs que vous voulez, il y aura des interventions, mais lorsqu'il s'agit de musulmans, c'est comme si que les peuples sont libres. Wallah Moustahan, c'est une réalité. Regarde même quand il y avait quand ce pays d'Afrique là, ou pas le Cameroun, non, les Tutsis et les Rwanda. Au Rwanda, quand il y avait les Tutsis, les Hutus et ainsi de suite, mais à un moment donné, il y a eu une intervention parce qu'on ne pouvait pas laisser une population, une tribu, et quand on parle d'une tribu, c'est pas 200 personnes, c'était des milliers de personnes, la moitié d'un pays exterminer l'autre. Mais au Sham, il y a destruction, il y a génocide et il y a utilisation, même certains dirigeants occidentaux l'ont reconnu, il y a même utilisation d'armes chimiques, ce qui est interdit par toutes les conventions et ainsi de suite. Allah Moustahan. C'est une situation, je crains qu'elle risque de perdurer, parce qu'à la fin des temps, qui est-ce qui va essayer de tuer le Mahdi? C'est une armée qui va venir de Hasham. C'est-à-dire que c'est un endroit où il y aura un conflit permanent. Il y aura une opposition, il y aura des gens qui ne voudront pas du Khilafa, qui ne voudront pas du changement on appelle inqilab al-umur. Ils ne voudront pas de ce changement de pouvoir. C'est des gens qui connaissent que lorsque Al-Mahdi va prendre le pouvoir, ce sera l'honneur, le Izza qui reviendra pour le monde musulman. Donc c'est des gens qui ne veulent pas de ce changement. Exactement comme le prophète alayhi salat wa salam, lorsqu'il était un enfant et que son oncle Abu Talib devait aller en Syrie pour le commerce et qu'il voulait amener un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qu'en chemin ils ont rencontré un moine qui a vu en lui les signes de la prophétie. Et il a dit à Abu Talib, n'amène pas ton neveu en Syrie parce qu'il y aura certaines personnes là-bas, d'accord, qui connaissent la Nabouwa, qui connaissent la prophétie, qui ont lu les livres anciens comme moi, et qui ont donc la connaissance, et qui vont reconnaître chez ce jeune enfant la prophétie, et qui vont essayer de le tuer parce qu'ils ne veulent pas de la naissance de la prophétie. Ils ne veulent pas le Izzah, parce qu'ils savent pertinemment que la prophétie qui vient chez les Arabes, c'est l'honneur, le Izzah pour les Arabes. Et à la fin des temps, certaines populations, ils savent également que le Mahdi qui va devenir Amir al-Mu'minin, ce sera le retour de l'honneur de Sharaf, le Quwwa, de la force également, pour les Mu'minin, pour les Muslimin, pour les croyants. Donc l'armée va aller à sa rencontre dans le but de mettre fin au joug de cette personne. Ensuite, on enverra contre lui une armée de soldats venus du Sham, et au moment où cette armée, c'est pas des pour parler là, c'est une armée, leur objectif c'est de tuer. Et preuve encore que c'est des gens qui n'ont aucun respect pour la religion. Où est-ce qu'ils vont essayer de tuer Al-Mahdi? Où ça? À Makkatul Mukarrama, Al-Haram, un endroit où on n'a pas le droit de tuer un animal, un endroit où on n'a pas le droit de faire couler une goutte de sang. Et ces gens ils ne vont pas hésiter à envoyer une armée pour tuer cette personne qui, selon eux, se proclame être le Amir. Alors, et au moment où cette armée atteindra une grande plaine désertique, elle sera intégralement engloutie. Et l'endroit s'appelle Al-Bayda. Al-Bayda, c'est entre la Mecque et Médine. Et c'est un endroit très vaste. Et Al-Alifi, rahimahullah, dit, imaginez, il a même fait un schéma un peu compliqué à comprendre. Et voilà, il montre la longueur de l'affaissement. Donc on a la mer Rouge, on a la distance. Wallahu a'lam, hein, je ne sais pas, est-ce que ça correspond à la flèche qu'il a fait entre la Mecque et Médine, mais c'est presque la distance. Est-ce que c'est, il se base sur l'ensemble de la zone qui s'appelle Bayda, ou alors c'est Ijtihad, c'est son avis, Wallahu a'lam, mais ce sera un endroit très vaste qui va être englouti. Et selon l'Alifi, il fait un parallèle entre cet engloutissement, ce séisme qui va avoir lieu à la fin des temps dans la péninsule arabe, et ce séisme-là, et cet événement, on est déjà dans les grands signes, parce que quand on parle de la venue d'Al-Mahdi, on est déjà dans les préambules des grands signes de Qiyam. Donc selon Cheikh Al-Alifi Rahimahullah, Hafizahullah, il y a un parallèle entre ces deux événements. Également, il y a un autre hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui est rapporté par Abu Daoud, donc c'est authentifié par Al-Bani rahimahullah également. Hadith Anas ibn Malik radiallahu anhu dit qu'à la fin des temps, pas forcément à la fin des temps, viendra une époque où les gens vont choisir de bâtir des villes, et l'une d'elles s'appellera Basra ou Busayra. Ben, on a Basra à notre époque. Le prophète alayhi salat wa salam a dit à Anas ibn Malik, si tu dois un jour y passer ou y entrer, fais attention des marais salants, de ses pâturages, de son marché et des portes de ses princes. Donc, Fassam a mis en garde Anas ibn Malik de ne pas trop aller dans ces endroits, dans cette région qui est à Basra, parce que le prophète alayhi salat wa salam dit qu'à la fin des temps, car cette ville connaîtra engloutissement et déluge de cailloux et vents destructeurs, des adab qui vont tomber sur cet endroit. Donc, cher, selon lui, l'autre engloutissement qui aura lieu donc en Orient, selon lui, ce serait Wallahu A'lam à Basra. Mais nous savons que d'une manière générale, les fitnas viennent de cette région, de l'Irak. Les fitnas, à la fin des temps, vont venir de cette région. Donc voilà, concernant un signe clair qui sera visible par l'ensemble des gens, mais on est encore à une époque où il y a des croyants, il y a encore des mu'mines, il y a encore des mu'mines, et cela va renforcer la foi des musulmans qui vont voir ces trois. Maintenant, la grande question est de savoir, est-ce que à cette époque, il y aura encore les moyens de communication moderne? Est-ce que d'un endroit, d'une zone géographique à l'autre, il y aura la possibilité de faire passer le message qu'il y a eu tel événement, qu'il y a eu un engloutissement et ainsi de suite. Allahu a'lam. Parce que si on suit un peu la logique de ce qu'on avait, on avait expliqué dans la venue de Al-Mahdi et Ad-Dajjal et ainsi de suite, que Wallahu a'lam, il y a énormément de signes qui prouvent qu'on sera à une époque où il n'y aura plus les moyens de déplacement modernes, plus de moyens de lutte armée, des armes de destruction massive modernes. C'est comme si que l'humanité reviendra un petit peu en arrière. D'accord, on avait donné pas mal d'indices. Et donc, de cette façon, Wallahu a'lam, il est possible également, ça c'est moi qui m'avance, que d'une zone à l'autre, les gens n'ont pas le temps de communiquer. Et ce sont des signes qui vont s'enchaîner. Tout comme, vous voyez, là, on revient au facteur temps. On avait dit que, on avait expliqué au début que le petit signe de Qiyama, un petit signe peut durer des milliers d'années et continuer et s'accentuer et perpétuer. Les grands signes, ils vont être les uns après les autres. C'est-à-dire que plus le temps avance, les enchaînements vont être plus rapides. Quand il y a Mehdi, il y a Dajjal, il y a Juj et Majuj, il y a Isa alayhi salam, les grands signes s'enchaînent. À la fin des temps, lorsqu'on passe à ces signes après Isa alayhi salam, ça va aller encore et encore, encore plus vite. Donc il est possible que les trois engloutissements auront lieu quasiment en même temps, ou alors une époque très proche, Wallahu a'lam, mais ce sera là un signe majeur à la fin des temps. Donc voilà donc pour ce signe qui aura lieu à la fin des temps. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on va essayer de faire un des signes les plus importants, le soleil qui se lève à l'ouest, parce qu'on pourrait dire que c'est un des derniers grands signes qui sera vécu par Mu'min et Kafir. Et juste après, on verra Inch'Allah également Ad-Dabba. Ça, c'est un signe qui est quand même, qui nous interpelle, une bête. Une bête qu'Allah va faire sortir de la péninsule arabe et qui va désigner les croyants des hypocrites. Un tel point qu'il n'y aura plus de doute entre le kafir et le mu'min. Et après, là on peut vraiment parler de la destruction de ce dunya. Après il nous restera à voir également un feu. Il reste donc trois signes, le soleil, Ad-Dabba, la bête, et le feu. Et après on va essayer de voir comment est-ce que le dunya sera détruit. Qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité de comprendre ce signe, même si on va dire qu'on n'a pas appris quelque chose qui va nous rendre plus pieux ou qui va nous donner la possibilité de prendre des résolutions, mais on a appris des, on va dire, c'est du ilm, ça reste une assemblée religieuse, et on a appris des textes annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a des milliers d'années et qui font partie des mu'ajizas, des prophéties que le prophète donc annonce des milliers d'années avant et qui vont se produire. Et ça, ce sont des choses qui renforcent notre iman et qui renforcent notre conviction sur la perfection de cette religion. Que le prophète nous a tout enseigné depuis le début de la création jusqu'au signe que personne peut-être à son époque, ou c'est à son époque, et même à notre époque, ne verront, et qui n'est décrit dans aucun livre, les signes qui auront lieu juste avant la destruction de ce dunya. Qu'Allah nous protège de connaître cette époque, et qu'Allah nous permette de rester ferme dans notre foi, et que même si l'époque est en train de changer, la situation se dégrade, il y a de plus en plus de péchés de fitna, qu'Allah nous donne la possibilité d'être comme ces gens qui tiennent ferme à leur foi, comme la personne qui tient la braise dans sa main, mais qui reste dans le droit chemin. Qu'Allah renforce notre iman. Allahumma amin. Et donc, Inch'Allah, donc ce soir, normalement, on avait prévu d'aller à Saint-Louis. Il y avait un programme sur la maladie et le décès du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont rajouté également le Hajjat al-Wada' que notre collègue n'a pas eu le temps d'aborder. Donc, le pèlerinage d'adieu, qui est quand même un chapitre important, la maladie et le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a voulu que les conditions météorologiques sont comme nous voyons. Inch'Allah sera reporté à vendredi, Inch'Allah. Et nous, de notre côté, on fera encore une séance, je pense que ce sera suffisant, concernant les grands signes. Peut-être encore une deuxième séance concernant la fin du monde, hein, la destruction de ce dunya. Et ensuite, Inch'Allah, Azza wa Jal, on va commencer un nouveau chapitre, une thématique tout à fait nouvelle. Qu'Allah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khair.